L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaël Bhattar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.
Bonsoir mes fantastiques pépites et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver pour continuer nos explorations au cœur des sagesses ancestrales. Ce soir, nous allons nous aventurer vers une nouvelle connexion à nous-mêmes à travers un courant développé au sein de l'hindouisme, un ensemble de textes qui, par le corps et les sens, nous relie au divin et à l'unité. Un enseignement qui a été très malmené en Occident, très incompris. Nous allons parler du Tantra. Alors, le Tantra est souvent associé à une forme de sexualité sacrée, d'un ensemble de rituels et de pratiques pour déployer l'énergie sexuelle à l'intérieur de soi. Mais l'usage de ce mot, qui veut initialement dire fil, trame, traité ou méthode, n'aurait-il pas un peu perdu son sens originel ? Pour nous éclairer ce soir, j'ai le grand honneur d'avoir à mes côtés une invitée très spéciale. C'est une femme absolument passionnante, une véritable érudite. Elle est indianiste, sanskritiste et docteur en philosophie comparée. Elle est également professeure de sanskrit et auteure de plusieurs ouvrages. C'est une éminente spécialiste de la pensée religieuse et philosophique de l'Inde. Bonsoir Colette Poggi.
Bonsoir, Gwenaël.
Bienvenue, merci d'être là avec nous.
C'est un vrai plaisir de partager ce moment et je pense que voilà, nous allons entrer dans cet univers du Tantra qui est absolument passionnant, encore pas tout à fait parfaitement connu, il faut le dire, et donc c'est bien d'arpenter ces voies à découvrir et qui ont tant à nous apprendre aujourd'hui en Occident, puisque c'est un univers foisonnant.
Exactement, tout à fait. Alors justement, moi quand j'ai fait mes études d'Ayurveda en Inde, il y avait écrit Tantra sur beaucoup des portes de salles de cours, et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être une petite confusion sur la véritable signification du mot Tantra. Alors, pour démarrer cette émission, Colette, et pour dissiper les doutes, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le Tantra ?
Alors, Tantra, en effet, c'est un mot valise qui a de nombreux sens. Et en effet, ça peut être juste un livre. Tantra, ça vient de tra, un instrument pour tan, finalement tendre une trame, relier des choses, et donc un ouvrage, un livre de cuisine, un livre sur le cosmos, c'est un tantra, mais c'est aussi évidemment une doctrine, et dans l'univers philosophique et religieux, certainement, de l'Inde, tantra fait référence à un courant vraiment fondamental qui a, à partir du début du premier millénaire, transformé, enrichi, épanoui de très nombreuses formes religieuses. Ce qu'apporte le tantra, c'est-à-dire cette idée de trame indivisible qui relie l'humain et le divin, l'individu et le cosmos, ce qu'apporte donc cette idée, cette approche, c'est que nous ne sommes scindés de rien, il y a une seule réalité, une réalité qui est à la fois lumière et énergie, c'est-à-dire conscience et énergie, à l'intérieur de laquelle nous sommes tous en interrelation. Et donc, l'idée vraiment fondamentale qu'apportent ces philosophies, ces rituels du tantra, etc., c'est que l'énergie qui est au cœur de l'homme, qui fait qu'il est vivant, il est conscient, il est créateur, etc., eh bien, l'idée que cette énergie n'est autre que l'énergie cosmique qui fait tournoyer les étoiles et les constellations.
Ah, c'est une belle définition. C'est vraiment cette idée de relier l'humain à l'invisible. En fait, ça me fait penser au yoga.
Mais le yoga, justement, et particulièrement, puisqu'il y a de très nombreuses formes de yoga, le yoga de la connaissance, du mantra, etc. Mais le hatha yoga, donc le yoga pourrait dire, de l'unification des polarités, Ha et Ta, lune et soleil, dérive vraiment du Tantra. S'il n'y avait pas eu le Tantra, donc il n'y avait pas eu cette exploration intérieure, d'abord, tout d'abord intérieure des énergies fondamentales de l'être, et s'il n'y avait pas eu non plus cette mise en regard avec les énergies universelles, le Hatha Yoga n'existerait pas. Donc, en fait, ce que l'on voit dans le Hatha Yoga, lorsqu'on pratique des postures, des pratiques de respiration également, des mudras, hein, des gestes, des mantras, etc. Ce que l'on voit donc dans ce Hatha Yoga, c'est une sorte d'expression de l'énergie cosmique. Hein, c'est-à-dire que chaque geste que l'on fait, chaque pensée que nous avons, chaque parole, chaque intuition, chaque mémoire, toutes ces choses-là nous semblent très différentes, hein, mais en réalité, elles surgissent du même océan qui est une sorte d'onde profonde, d'ondoiement, où tout se mêle, où tout est en résonance. Hein. Quand on jette un petit caillou dans l'eau, en réalité, ces ondes se propagent, hein, de proche en proche, et si on pouvait mesurer cela, tout le lac, hein, serait, on recevrait cette vibration. De la même façon, il suffit que nous émettions une onde de pensée, de forme par la pratique, etc., par un mantra, par la parole, et il y a une sorte de métamorphose de cette vie que nous sommes et aussi qu'est le monde autour de nous. Voilà. Donc le Hatha Yoga, comme toutes les formes de yoga, participe de cette vision d'une trame universel, indéchirable, dont nous sommes une étincelle, une onde si l'on veut, et qui est en relation, en interaction, qui est comme une parabole si vous voulez, qui reçoit toutes les autres, même sans le savoir, et qui émettre en fait à l'infini aussi d'autres informations. Et il y a une réalité qui est extrêmement importante dans le Tantra, importante à plusieurs titres. En fait, on va voir, c'est la parole, vaak en sanskrit, qui a donné vocal dans nos langues à travers le latin. C'est important premièrement parce que dans le Veda, c'est-à-dire la révélation fondamentale de l'hindouisme, hein, à peu près deux millénaires avant notre ère, un peu plus ou un peu moins, dans les Upanishads au 8e siècle avant, dans le Tantra, au début du premier millénaire, hein, et en fait ces choses-là ne se divisent pas en tranches, hein, mais sont comme des courants qui se superposent, eh bien, s'il fallait dégager une notion fondamentale, ce serait celle de la parole. Une parole qui n'est pas forcément audible, verbale, mais que les hindous conçoivent comme une information, on pourrait dire une intelligence cosmique, qui s'articule, hein, comme la parole le fait, en divers éléments. Et dans le Tantra, la parole, vaak, donc, est un aspect originel, fondamental de l'énergie cosmique. Donc, tout se passe comme si, alors, ce sont des analogies, évidemment, notre ADN, hein, le germe, je ne sais pas moi, d'un jingo biloba ou d'un minéral, hein, d'un escargot, etc. Tout cela participait de cette intelligence cosmique qui est énergie. Donc, c'est pour vous qui êtes médecin, hein, médecin ayurvédique, je pense que c'est extrêmement, comment dire, heureux, bénéfique de se souvenir qu'au fond de nous, et d'ailleurs c'est le sens du mot Sushumna, hein, notre axe médian dans le yoga, cet axe vibratoire médian, hein, qui n'est pas une substance, mais un pur canal vibratoire, dans ce mot Sushumna, on entend mna, mnésique, hein, Et donc, les sous ces deux préfixes ont simplement pour sens, il est heureux, extrêmement heureux, il est bénéfique, il est thérapeutique, mena, de se souvenir de cela. Donc, et simplement, il s'agit de se souvenir que nous sommes dans cet océan de conscience énergie. Ça, c'est vraiment, je crois que s'il fallait le retenir, une seule chose, c'est vraiment le credo du tantra.
D'accord. Donc vraiment, enfin c'est ça, c'est vraiment cette connexion au tout, à l'univers, au divin, et en fait la non-séparation, hein, se dire que vraiment on est tous reliés et que toutes les paroles, comme vous l'avez dit, moi ce que j'entends dans paroles, en fait c'est tout ce qui peut en fait émaner de soi, donc ça peut être aussi bien des paroles pensées ou des paroles verbales, puisque vous avez dit que c'était pas forcément par le son, même si le son Shabda est sacré en Inde. En effet, les pensées ont une résonance cosmique et une fréquence qu'on envoie à l'extérieur de soi, qui ont un impact en fait sur notre univers, qui nous paraît être l'univers extérieur, auquel on est totalement relié. Donc il y a cette idée toujours de peut-être de microcosme et de macrocosme aussi, comme en Ayurveda d'ailleurs, et puis de cette connexion en fait au divin. Est-ce que le tantra, ce serait pas finalement, pour simplifier les choses, pour comprendre un peu mieux, juste la trame qui permet en fait de se relier à notre part de divin, en fait à comprendre en fait cette espèce de tissu qui pourrait nous porter pour comprendre en fait que nous ne sommes pas dissociés des autres ni de l'univers.
C'est tout à fait ça, hein, puisque en fait le suffixe tra, hein, qu'on retrouve dans yantra, mantra, ça veut dire juste instrument pour. Instrument pour justement l'atteindre, en fait, prendre conscience de ce tissage tan, hein, qui nous, sans lequel d'ailleurs nous ne serions pas vivants. Et c'est tout à fait ça, c'est relier l'individu à l'univers et au divin, à sa part la plus profonde, hein, à cette petite étincelle de divin que nous avons en nous, mais qui existe aussi en fait dans l'univers. Et alors par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette parole effectivement silencieuse, hein, que tout être émane finalement, je voulais rappeler simplement que le tantra a eu aussi, ça a été comme une lame de fond quand c'est apparu, non seulement pour l'hindouisme mais aussi quelques temps d'intervalle pour le bouddhisme et même le jaïnisme. Et que, par exemple, dans le bouddhisme, le Bouddha dit « un arbre est un sutra, un arbre est un enseignement ». Donc, cette notion de parole, cette notion d'information qu'une conscience éveillée peut capter en toute chose, justement, elle est là. C'est-à-dire que dans le tantra, il y a cette idée que tout des paroles, que tout nous parle. Ça ne veut pas dire qu'il va parler un langage tel ou tel, en sanskrit ou en chinois ou en je ne sais quoi, mais ça veut dire que tout est résonance. Cette idée d'énergie, d'écho, être en résonance, être en écho avec, ce qui correspond également à cet aspect de la théorie du yoga, du corps subtil. Notre corps physique, c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'on peut toucher, mais il y a toute une dimension intangible, invisible en nous, même si l'on peut nous découper en morceaux, on ne la verra jamais. Justement, c'est cette trame tissée de vaisseaux de souffle qu'on appelle les nadis, et qui sont en réalité comme des flûtes, hein, de roseaux, évidemment, pas de matière, hein, mais purement des axes, qui sont un petit peu comme, pour trouver l'image d'une cascade en nous, où justement le souffle divin, le prana cosmique entre en nous. Ce prana qui parfois, comme un réseau hydrographique, se trouve bloqué, parce qu'il y a eu des blocages émotionnels, des blocages, je ne sais pas, physiques, etc. Et donc tout le propos du Hatha Yoga et de l'Ayurveda, effectivement, consiste à libérer ces sortes de coagulation, à les faire fondre, encore une fois par l'énergie. Parce qu'il est dit que, dans les textes, hein, surtout les tantras, le soleil Hein, l'énergie solaire, justement, fait fondre la glace. Ce qui était figé redevient fluide et mouvant. Voilà. Donc, si la vie coule en nous, si la vie en nous est fluide, alors la vie, c'est-à-dire le mouvement, mais aussi la pensée, nos mémoires, etc., nos relations à autrui, nos relations au monde, alors on s'inscrit dans ce tantra cosmique.
Alors justement, là, il y a beaucoup de choses qui me viennent par rapport à tout ce que vous venez de dire. Ça me fait penser aussi à la Kundalini, qu'on associe aussi beaucoup au tantra. Donc le yoga, la Kundalini, cette énergie du prana, les énergies bloquées, tout ça, le shushumna. Enfin, quel est le lien du coup avec le tantra?
L'une des métaphores justement de cette shakti, de cette énergie, de cette puissance conscience aussi, hein, intelligence dans l'homme, c'est que une fois qu'elle a créé finalement cette énergie créatrice, s'endort, s'assoupit à la base de la colonne vertébrale, mais en réalité c'est la base de l'axe médian, hein, de la sushumna justement, hein. C'est pas physique, c'est purement énergétique. Et dans cette kundalini, endormi, dit-on, comme un serpent femelle, 3 fois et demi sur elle-même, on peut lire l'image de l'être humain qui n'est pas pleinement vivant. Il est comme à moitié vivant, il est endormi, et il paraît, hein, j'en ai jamais rencontré de ces grands serpents, qu'à ce moment-là, le poison, un visha, est prêt à jaillir. Hein. Tandis que quand le serpent s'est redressé, donc 3 fois et demi multiplié par 2, ça fait 7, il y a toute une symbolique ici, avec les 7 grands centres énergétiques, comme la gamme, hein, eh bien, à ce moment-là, vous savez, comme dans les grands cobras, son capuchon immense se déploie, comme l'on voit parfois au-dessus d'un Bouddha, et à ce moment-là, elle est protectrice, cette énergie cosmique. Donc, c'est cet éveil des puissances enfouies, des puissances cosmiques ignorées, cet éveil qui devient vraiment épanouissement de toutes les énergies de l'homme, voilà, ça a été symbolisé par la Kundalini. Mais je dois dire à ce sujet, et c'est le sens du livre de Lillian Silberne, La Kundalini, l'énergie des profondeurs, qui vient d'être réédité, hein, qui avait été édité en 1983, et qui est vraiment fondamental, parce qu'il donne accès au texte source, hein, à certains passages, mais il met aussi en garde contre des pratiques, j'allais dire téméraires, hein, qui consisteraient à éveiller la Kundalini. Éveiller la Kundalini, c'est comme manier l'atome, hein, l'énergie atomique. Ça peut donner lieu vraiment à des problèmes physiques, physiologiques et psychiques extrêmement importants. J'ai rencontré des personnes, même des personnes, des chercheurs très sérieux. Quand je dis chercheurs, je veux dire scientifiques, et qui avaient eu de façon inopinée des expériences de ce type et qui ont été vraiment pendant des semaines fortement perturbées. Voilà. Donc c'est comme un guide en montagne, hein. On peut aller à la cime, mais il faut encore que le guide sache nous faire redescendre. Et que on puisse passer de cette expérience totalement incroyable, hein, où il y a une expansion de conscience extraordinaire et tout à fait déconcertante, il faut pouvoir revenir à la vie ici et maintenant. Voilà.
Exactement, et c'est très bien de le préciser en effet, parce que il y a cette quête aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes en fait qui cherchent en fait à avoir ces expériences-là avec la Kundalini. Il faut être assez prudent. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas forcément une mode ou une tendance en fait à explorer. Ça va bien au-delà de ça. Donc en effet, c'est bien de le préciser. Et justement, donc du coup, il y a cette histoire aussi de Shiva et de Shakti. Hein, dans le tantra, quelle est leur place en fait? Pourquoi on parle de Shiva et de Shakti?
Shiva, c'est la conscience absolue, la lumière infinie irradiante qui préside, par exemple, c'est une image, hein, c'est analogique au Big Bang. Qu'y a-t-il avant le Big Bang ? Pourquoi y a-t-il l'univers ? Il faut bien qu'il y ait un germe fondamental. Et dans cette lumière irradiante, pour le Tantra, ce qui n'est pas le cas pour les autres grandes philosophies de l'Inde, il existe une énergie indissociablement liée, irréductiblement une avec cette lumière. Lumière et énergie sont vraiment ensemble. Et donc Shiva symbolise la lumière, la conscience, être conscient, c'est-à-dire un espace infini, puisque la conscience est un espace potentiellement ouvert, en laquelle on peut tout imaginer, et énergie, c'est-à-dire Shakti. Et alors, il est conventionnel, il est traditionnel en Inde, dans le Tantra, de représenter soit Shiva, dans ce cadre, en train de danser la danse cosmique, comme Shiva Nataraja, donc dans une roue de flamme, c'est-à-dire que la réalité s'allume et s'éteint à chaque instant, comme palpite une flamme, et il a cinq actions, il crée, il conserve, il détruit, il voile et il dévoile. Voilà. Mais ces actions, cette quintuple activité, il ne pourrait pas l'accomplir, évidemment, s'il n'y avait pas une dynamique profonde, innée, qui est la Shakti. La Shakti se manifeste à tous les niveaux, physique, psychique, spirituel, atomique, cosmique. Et c'est pour ça que dans le Tantra, il y a quelque chose vraiment de fondamental, on pourrait dire une dimension fondamentale, à côté de la connaissance, qui est extraordinaire, il y a une grande philosophie, etc., c'est la notion d'expérience. Le Tantra, c'est bien davantage une approche, une pratique, une expérience où l'individu va petit à petit comprendre qu'il n'est pas un individu isolé, mais qu'il est, comment on pourrait dire ça, une onde, comme je l'ai dit tout à l'heure, inscrite au sein d'un océan de lumière énergie, justement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ressentir devant un arbre, à l'intérieur d'une posture. Ce n'est pas la forme que l'on va faire qui est importante, mais c'est de l'intérieur ce que l'on va ressentir. Et surtout, lorsque l'on lâche, ce lâcher-prise est très important, on lâche ses identifications, ses repères, ses volontés, ses intentions, pour s'abandonner totalement à quelque chose d'inopiné et qui est comme une sorte de quelque chose qui va s'exhaler, qui va affleurer du profond de la vie.
Mais alors, comment on fait ça? Alors, parce que du coup, là, c'est la notion d'expérience, de sensation. Est-ce que ça passe déjà par le corps et les sens? Puisque il y a aussi cette idée, je crois, dans le Tantra, que justement, le corps et les sens, en fait, ne sont pas un obstacle à l'épanouissement spirituel. Alors, comment on fait concrètement?
Il n'y a rien de plus simple. Nous sommes vivants, donc nous avons les codes. Et c'est pourquoi dans le Tantra, vous le dites avec vraiment beaucoup de justesse, on ne va pas rejeter le monde, on ne rejette pas le corps parce qu'ils ne sont qu'illusions. Il ne faut pas rejeter ni déprécier tout cela, car le corps est vécu comme un sanctuaire portatif. Voilà, nous sommes vivants, nous recevons la vie, nous ne pouvons pas la vouloir, nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que des passants. Et donc, tout instant de la vie, c'est ce qui est magnifique dans le Tantra, et surtout dans ces Tantras non dualistes, parce qu'il y a en fait tout un éventail de Tantras, qu'on dit de la droite vers la gauche, dualiste jusqu'à non dualiste. Non dualiste signifie que l'on ne voit pas évidemment de césure, et boire de l'eau, voire boire même des boissons spiritueuses, comme ça peut être pratiqué dans certains rituels, marcher, respirer, aimer, mais aussi être en proie à une émotion soit positif comme l'émerveillement, soit peut-être négatif, je ne sais pas, comme la colère, hein, l'égarement, la peur. Toutes ces circonstances, dans, pour un initié tantrika, on va dire pour, au moins pour un chercheur, sont des occasions, hein, comme pour un artiste finalement, hein, en musique ou en peinture ou je ne sais quoi, sont des occasions de faire l'expérience de soi. Et alors, dans les textes, on raconte par exemple que, par exemple, je pense au Vijnana Bhairava Tantra, hein, c'est vraiment un texte formidable, très simple, avec 172 moyens, ils sont très simples, justement, c'est pas du tout formaliste. On nous dit par exemple que si on a une grande colère, une peur, etc., ou un désir amoureux immense, etc., l'homme ordinaire s'identifie à ce sentiment ou à cette émotion. Tandis que le tantrika, eh bien, garde l'élan, mais il va dépolariser cette énergie qui lui arrive. Hein. Lorsqu'on aime, on est porté par une énergie, lorsqu'on est en colère aussi. Et ce tantrika va pouvoir prendre conscience de l'effervescence produite et enlever le côté négatif. Voilà. Et ça se trouve vraiment dans de très très nombreux courants du tantra, hindou, bouddhiste et jaïn. Voilà. Donc, par exemple, il y a un verset, alors évidemment, je ne sais pas si je vais le trouver, mais en tout cas, je le sais par cœur quasiment. Par exemple, si on contemple un ciel très pur, hein, on y fixe le regard sans ciller, alors, soudain, l'être entier est immobilisé, et à ce moment-là, on atteint la réalité absolue. Hein, parce qu'il y a cet infini. Vous voyez, on s'identifie à quelque chose d'immense. Ou encore, par exemple, si l'on entend des sons merveilleux, bon, j'ai pas le... si on entend des sons merveilleux, par exemple un instrument à cordes, une vina, et que l'on laisse son esprit se fondre, s'identifier à ce son, petit à petit, toutes les autres pensées vont s'évanouir et il ne reste plus que la résonance. Et quand cette résonance acoustique va s'éteindre, eh bien, la conscience va découvrir qu'en elle-même, il y a aussi une résonance, une vibration. Ça, ce sont des tremplins pour atteindre cette conscience énergie universelle. Il y en a de très nombreuses, par exemple aussi lorsqu'on s'endort, hein, entre la veille et le sommeil, il y a un moment très particulier où la pensée et l'ego lâchent prise. Mmh. Là, il y a une brèche qui nous permet de passer et d'atteindre cette réalité. Et comme on peut le voir ici, on n'a pas du tout besoin de passer par l'expérience de la Kundalini. Hein,
oui,
les plus grandes expériences spirituelles, il peut y en avoir, hein, par la Kundalini, mais ça peut être aussi sans cela.
Oui, en effet. Donc là, on a déjà des exemples. Et c'est vrai qu'en effet, hein, c'est dans les petites choses, souvent, dans tout ce qu'on vit au quotidien, qu'on peut vivre des états comme ça de connexion au divin, au spirituel et à sa vraie nature. Pourquoi on associe autant le tantra à la sexualité ? Est-ce que les courants de néo-tantrisme et de sexe tantrique ont vraiment quelque chose à voir avec le tantra ? Peut-être qu'on peut terminer l'émission en fait sur ça pour éclairer nos auditeurs.
Oui, bien sûr. Alors, comme je le disais à l'instant, rien de ce qui forme, de ce qui constitue l'existence humaine n'est exclu des tantras non dualistes. Hein, parce que dans les tantras dualistes, par exemple, pour les rituels, on ne prendra que des substances très pures, etc. Tandis que dans le tantra non dualiste, eh bien, on utilise comme vecteur, comme tremplin, tout ce qui peut amener une sorte d'effervescence spontanée dans l'être humain. Hein. Par exemple, la beauté, l'expérience de la beauté, l'émerveillement, l'union amoureuse, Parce que dans l'union amoureuse, il y a une sorte de perte, de sensation, c'est moi et c'est toi. Il y a une sorte de fusion spontanée. Voilà. Mais ces choses-là se font dans des cadres vraiment rituels particuliers et s'adressent à ce qu'on appelle des disciples qualifiés. En fait, ce n'est pas parce que on va se dire « Ah ben, ce serait pas mal, c'est intéressant, on s'inscrit, hein, je m'éveille ma kundalini en 4 jours et tout va bien. » Pas du tout. Ce sont des disciples qui ont déjà franchi de très nombreux caps par rapport à l'attachement au moi, à l'attachement au plaisir. Et on le dit dans les tantras, de toute façon, ça c'est vraiment patent, c'est évident. Seuls ceux qui sont capables de se détacher de l'expérience de la jouissance au moment où ils la vivent sont qualifiés pour ce genre de rituel. Voyez, donc c'est, on peut dire que moi je ne peux pas juger, je ne connais pas tous ces, toutes ces expériences dont vous parlez, tous ces courants, je sais qu'ils existent, mais c'est très différent de le faire dans un cadre traditionnel, authentique, avec un maître tout à fait désintéressé, qui ne cherche aucun pouvoir, qui ne cherche aucun profit, de quelque sorte qu'il soit, hein, de quelque sorte, et de le faire peut-être dans un contexte où voilà, on veut s'enrichir, etc. etc. Malheureusement, en Inde comme en Occident, on a aujourd'hui beaucoup d'exemples. Donc, cela existe, a existé, mais par exemple, mais ça peut être aussi pas seulement sexuel, mais dans les champs crématoires, un disciple tantrika, son maître peut lui demander de passer une nuit entière dans des champs crématoires en Inde où les cadavres sont en train de se décomposer. Et moi, j'ai un ami qui a vécu cela, un ami qui avait 30 ans, et il m'a raconté que au bout de cette nuit, tous ses cheveux étaient devenus blancs, tellement qu'il a eu une frayeur énorme. Mais ça fait partie de certains rituels, justement, d'essayer de surmonter cette peur. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement circonspect et prudent lorsqu'on aborde tous ces sujets, et qu'on a toujours intérêt à revenir aux textes sources et les remettre dans le contexte. Voilà. Certaines pratiques peuvent être comprises, intégrées, guidées par un maître, un véritable maître. C'est le sens du mot gourou, mais sous l'égide d'un faux maître, même il peut être de bonne foi, mais s'il n'a pas lui-même arpenté toute la gamme des états jusqu'au plus haut, il peut induire ses disciples vraiment à commettre des choses irréparables pour eux-mêmes, je dirais. Voilà. Donc il faut se respecter et il faut être. S'il y avait un mot à retenir, ce serait discernement.
Voilà, c'est vrai, ça, c'est très ça. Important. Justement, est-ce que le tantra peut apporter des choses en fait actuellement avec ce qu'on vit, avec ces circonstances actuelles de crise sanitaire avec la Covid? Est-ce que ça a de l'intérêt peut-être de mettre un peu plus de se connecter un peu plus à ces sagesses anciennes et au tantra?
Absolument, absolument. Ne serait-ce que la notion et la vision d'interconnexion. Nous ne sommes pas du tout isolés. Être individualiste aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Par exemple, pour cette histoire de Covid, il faut que nous soyons tous conscients, respectueux pour soi-même et pour autrui, et pas du tout insouciants et absolument individualistes. Donc, comprendre aussi que ce qui nous arrive est toujours la conséquence de quelque chose, d'une sorte d'irrespect de l'ordre cosmique. C'est comme si on avait bafoué quelque part, que ce soit moralement, matériellement, qu'on avait fait injure à la Terre, qu'on l'ait brutalisée, qu'on l'ait trop exploitée. Pareil pour les êtres humains, ou les animaux, ou les végétaux. Donc, c'est vraiment... derrière le tantra, l'idée que l'on doit ressentir, comprendre certes, mais aussi sentir par toutes ses fibres que l'on est relié, que chacun est une sentinelle pour autrui, hein, pour la nature, pour la planète, et que mantra, quand on parle du mantra, signifie un instrument pour penser, hein, pour penser justement non pas comme ego, mais comme un être présent, un je suis, on dira dans le tantra, hein, un je suis, c'est-à-dire un être vivant, ouvert en osmose avec tout ce qui est, et sans cesse animé par une énergie recréatrice. Recréatrice, il faut se réinventer, il ne faut pas rester dans l'ancien, mais aussi décréatrice, c'est-à-dire qu'il faut accepter aussi de dissoudre, de lâcher prise sur l'ancien, sur l'imparfait, hein, sur l'habituel, pour s'ouvrir justement à la grande mélodie de l'univers.
Non mais ça c'est très juste et du coup on va sûrement terminer sur ça d'ailleurs Colette, puisque le temps passe beaucoup trop vite, j'aurais énormément de questions à vous poser encore, il y a plein de choses en fait qui me brûlent la langue, j'aurais adoré approfondir, mais en tout cas si on veut approfondir, déjà ce qui est intéressant c'est de savoir que vous avez écrit quand même pas mal d'ouvrages, hein, et parmi vos nombreux ouvrages on peut se lancer et puis approfondir la sagesse du tantra avec entre autres votre livre 7 joies du Tantra Shivaïte, rencontre avec 7 maîtres du Cachemire médiéval aux éditions Acarias l'originel. Il y a également l'art de l'illumination au cœur du Tantra aux éditions Les Deux Océans. Vous m'avez également parlé d'un livre qui s'appelle L'alchimie du yoga selon Goraksa, donc qui peut être aussi aux deux océans, voilà, qui peut être aussi une voie d'exploration. Et puis justement, vous avez sorti un superbe livre, hein, récemment, qui a l'air vraiment passionnant, que c'est sur la Bhagavad Gita, c'est Bhagavad Gita ou l'art d'agir aux éditions des Équateurs, qui à mon sens tout à fait actuel. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez juste nous dire quelques mots rapides sur cet ouvrage?
Oui, tout à fait. Donc, la Bhagavad Gita, c'est un texte sacré de l'Inde ancienne, à peu près du 4e siècle avant notre ère, et qui est toujours d'une brûlante actualité, parce qu'il montre que, en certaines circonstances, il faut vraiment s'impliquer totalement, agir, et agir avec discernement. Hein. Et cette Bhagavad Gita a été, on pourrait dire, le souffle inspirateur à chaque crise d'un Gandhi, d'un Martin Luther King, d'un Nelson Mandela, de l'écologiste Vandana Shiva, hein, qui prône la désobéissance créatrice. Et donc, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que ce texte, aujourd'hui, hein, je l'ai écrit pendant le premier confinement, pratiquement, était totalement, est une instruction pour nous au quotidien. Hein, c'est vraiment un livre très simple, et j'y ai très souvent fait référence à un auteur du Tantra, un grand philosophe qui s'appelle Abhinavagupta, au 10e siècle de Cachemire, qui a commenté précisément la Bhagavad Gita et qui a montré que le champ de bataille sur lequel se déroule ce dialogue, hein, et donc ce conflit, est une métaphore de l'existence, de notre propre existence, qui est aussi soumise souvent à des dualités, à des dilemmes, à des difficultés, voilà. Et que, au sein même de cette vie, donc, nous pouvons surmonter cela dans un élan altruiste. Voilà. Ne pas agir pour soi, ce qui serait vraiment la mort, hein, à notre échelle et à l'échelle cosmique de la planète également, mais plutôt dans ce sentiment d'interdépendance avec autrui.
Oui, et puis en plus, du coup, la Bhagavad Gita qui est finalement, enfin, complètement en lien avec tout ce qu'on vient de dire, puisque le corps est aussi un véhicule, hein, donc, et c'est aussi d'ailleurs un véhicule pour le tantra. Alors, vous donnez aussi des cours de sanskrit, donc, ça, c'est super quand même, hein, je vous le dis, mes chères pépites, si jamais vous souhaitez apprendre le sanskrit, c'est quand même une grande chance de pouvoir apprendre une langue aussi compliquée avec quelqu'un qui parle sa langue maternelle, hein, donc, voilà, donc on peut apprendre le sanskrit avec vous aussi, Colette.
Alors, ce sont des cours de sanskrit. Il y a deux choses, en fait, des cours de sanskrit par correspondance, toujours fondés sur les textes sources et les grandes notions indiennes. Mais il y a aussi des ateliers, donc qui actuellement se font par Zoom, une fois par mois, qui portent sur les grands textes du yoga. Et là, nous abordons les choses de façon simple et interactive.
Bon, bah, c'est super, en tout cas. Donc, est-ce que vous avez des projets, des actualités à venir, peut-être, ou
Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Non, mais c'est des choses passionnantes. Par exemple, une recherche sur l'écologie spirituelle dans les textes anciens, la manière dont on considère dans le Veda, dans les Upanishads, dans le Tantra, la terre, l'eau, les planètes, etc., l'espace, l'air. Et puis aussi, un autre livre dont je parlerai un petit peu plus tard, voilà.
Bon, ben, j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de pouvoir en reparler parce qu'en effet, c'est vraiment passionnant. De toute façon, mes chères pépites, je vous invite à découvrir tous les livres de Colette parce qu'elle a, elle a vraiment en fait la capacité d'écrire et de décrire avec une grande clarté des notions qui sont très complexes. Il y a vraiment une grande fluidité dans son écriture et c'est vraiment très agréable à lire. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder tout ce qu'elle fait. Et en ce qui concerne l'Ayurveda Sourire, vous pouvez bien sûr approfondir et prendre rendez-vous avec moi en présentiel ou à distance. Toutes les informations sont sur mon site qui est en description de cette émission, www.mihira-ayurveda.com, Mihira, M-I-H-I-R-A. Vous pouvez également découvrir mon livre « L'Ayurveda Sourire, quand la joie du cœur et la santé du corps » aux éditions Marie-Claire en version papier et en livre audio sur Audible. Et puis suivre également toute mon actualité sur les réseaux sociaux, toujours via Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A Ayurveda. Un immense merci Colette pour ce partage de connaissances merci, et cette échange très riche. Bon.
Très, très, très fréquent, très prometteur et très stimulant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, voilà. Colette. Et puis, merci, mes chères pépites, pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires. Et surtout, rappelez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À bientôt.
L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.